Radio 1, premier sur l'info, le journal
avec MCM,
présenté par Tamara Sentis.
Rebonjour Tamara et on commence avec les titres.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Dans ce journal, nous reviendrons sur les principaux points évoqués hier lors de la rencontre entre le ministre Tevaro Fritsch et les perliculteurs. Ces derniers réclament une libéralisation, notamment dans la commercialisation et le contrôle de qualité, vous l'entendrez. Nous reviendrons également sur les trois dispositifs de contrôle routier mis en place hier par la gendarmerie. Le but était surtout d'interpeller les auteurs d'infractions génératrices d'accidents, à savoir l'absence de casque de sécurité homologué, le téléphone au volant et le non-port de la ceinture de sécurité. Une soixantaine de personnes en tout ont été verbalisées. Et puis enfin, même s'il est un peu tôt, nous parlerons de vin et de sommellerie puisque l'un des meilleurs sommeliers au monde est en ce moment à Tahiti pour vous transmettre sa passion.
Et la ligne Papeete Los Angeles-Paris n'est donc pas menacée par les mesures drastiques de la compagnie Air France.
C'est en effet ce qu'indique l'antenne polynésienne d'Air France qui a fait parvenir un communiqué hier pour rassurer ses partenaires et ses clients. Malgré l'annonce d'au moins 1000 suppressions de postes et d'une restructuration profonde, le communiqué assure que la ligne aérienne qui relie Papeete à Paris via Los Angeles est revenue à un équilibre économique satisfaisant depuis 2013 et qu'elle n'est donc absolument pas remise en cause. Les vols entre Papeete et Paris seront donc maintenus en 2016 avec la même fréquence de 3 vols par semaine.
Une rencontre a eu lieu hier entre Tevaro Fritsch et les perliculteurs.
Le ministre de l'économie bleue tenait à s'entretenir avec les professionnels de la perle avant de leur présenter le projet de loi de pays pour relancer le secteur de la perle noire. Les perliculteurs demandent une libéralisation, notamment dans la commercialisation et les contrôles de qualité. Tevaro Fritsch entend mettre en place plus de contrôles à la production. Selon Aline Baldassari-Bernard du Tahitian Pearl Association of French Polynesia, la perle est déjà au fond du trou. Le système de contrôle de qualité est notamment mis en cause comme étant un contrôle de la couche de nacre trop restrictif qui ferait disparaître une quantité de perles de bonne qualité. On l'écoute.
Profond du trou. Ok, on ne peut pas aller plus loin. Il y a déjà d'énormes quantités de mauvaises perles qui se vendent à Hong Kong. Déjà, il y a des détournements de perles. Cette libéralisation, vous ne vous rendez pas compte que, par exemple, pour la couche, on peut très bien avoir des perles A ou B, c'est-à-dire de très belle qualité, énormes, qui sont à 0,78 et qui sont détruites. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il n'y a pas que les mauvaises perles. Le contrôle de la couche, et moi, je le dis, je le répète depuis des années, j'ai vendu avant la mise en place des contrôles, des perles à 0,5 mm, et j'ai jamais eu le moindre problème avec les Japonais. Jamais eu une plainte. Donc, si vous voulez, bon, cette couche a été fixée de façon un peu intempestive à l'époque, mais elle est beaucoup trop contraignante, surtout pour les très belles perles.
Et de son côté, Tevaro Fritsch a rappelé que ce sont bien les perliculteurs qui avaient réclamé la mise en place des contrôles. Pour lui, le véritable problème se situe au niveau de la maîtrise de la production. Il a également insisté sur la nécessité de respecter les obligations qui seront décidées.
Par contre, mon message est aussi de leur dire, attention, dès lors qu'on arrêtera ensemble une réglementation, respectons-la tous. Parce qu'on pourra sortir toutes les lois de pays qu'on veut. Si une fois sur le terrain, et on ne pourra pas mettre un agent de la direction des ressources partout en même temps, H24, ces dispositions ne sont pas respectées, effectivement, on va retomber dans l'anarchie, et dans ce qu'on a pu constater ces dernières années. Donc, c'est une affaire de partenariat et de travail, de consensus qu'il faut qu'on obtienne.
Et sachez que le texte de loi de pays sur la perle devrait voir le jour avant la fin de l'année, si l'on a bien travaillé, a précisé le ministre.
On parle sécurité routière avec une vaste opération de contrôle qui a eu lieu hier.
En effet, dans la matinée, la brigade motorisée de la gendarmerie, appuyée par des motards en civil, avait mis en place 3 points de contrôle sur Tahiti. L'objectif du dispositif était surtout de sanctionner les infractions les plus accidentogènes, à savoir le non-port de la ceinture, les casques non homologués et les téléphones portables au volant. Dans l'après-midi, une opération de destruction des casques saisis a été effectuée dans l'enceinte de Fenouama, à Motuta. Je vous propose d'écouter le reportage de Vaïté Ourari Pambrin.
Monsieur, bonjour. Vous avez été contrôlé avec le téléphone au volant?
Oui.
Donc, je vais vous demander de me présenter votre permis de conduire, s'il vous plaît. Vous prenez votre carte grise et vous me suivez à la moto, s'il vous plaît. Donc là, vous allez être verbalisé. Hein. Donc, l'amende, elle est de 16 100 francs. Tu as 45 jours pour la payer. Passé ce délai, l'amende passe automatiquement à 44 700.
Voilà ce qui vous en coûtera si vous ne portez pas votre ceinture de sécurité, si vous n'avez pas de casque pour les deux roues ou encore si on vous surprend à téléphoner au volant. Henry a été contrôlé avec son téléphone à la main.
À 32 ans, c'est un choc. Hein. Je viens de perdre ma virginité en termes de permis vierge, je vais dire. Donc oui, c'est la première fois que je me fais verbaliser. Voilà. C'est vrai que c'est une belle leçon, surtout lorsqu'on voit les montants, 16 000 francs. Je vois que j'ai perdu 2 restaurants. Donc du coup, je ferai plus attention la prochaine fois. C'est vrai que c'est pas très prudent de conduire avec le téléphone. C'est une leçon. Voilà, je retiendrai.
Ces infractions de quatrième classe sont particulièrement accidentogènes, explique le capitaine Olivier Faure, à la tête de la cellule de la prévention routière de la gendarmerie.
Nous avons compris que 60% des accidents corporels ou mortels proviennent du comportement des gens.
Le maréchal des logis chef Olivier Cussaguet précise que ces opérations contribuent à la diminution des accidents et donc à éviter les drames sur les routes du Fénois.
On cherche à avoir un impact sur l'accidentalité. On leur explique les facteurs accidentogènes, donc les téléphones, les deux roues, les équipements de sécurité, tout ce qui peut être des facteurs aggravants sur un accident de la route.
Et ça fonctionne vraiment ?
Oui, oui, parce que de manière générale, on peut constater que l'accidentalité reste sur la baisse. Dès lors où on touche au porte-monnaie des gens, ça fonctionne. Ça fait réagir toujours un petit peu.
Pendant 7 mois, 109 casques non homologués ont été saisis lors de différents contrôles routiers. Ces derniers ont été détruits vendredi après-midi. Pour le colonel de la gendarmerie, Pierre Caudrelier, seuls les casques en bonne et due forme peuvent sauver la vie des cyclomotoristes. Et c'est tout ce qui importe.
On est sur, je dirais, une tendance en termes d'accidents et de blessés global qui est supérieure à ce que c'était l'année dernière. Mais la tendance est en train de se réduire. Nous avions à peu près 38 à 40% de plus d'accidents et de blessés. Je crois que nous sommes à peu près arrivés à réduire à 25% l'augmentation des accidents.
Pêle-mêle, lors des opérations menées vendredi matin, les gendarmes ont relevé 37 non-ports de ceinture, 31 casques non homologués ou non attachés, une conduite en état d'ébriété, un défaut de permis de conduire et 4 stops brûlés.
Et la gendarmerie toujours qui lance un appel à témoins.
Après une semaine de recherche vaine, la gendarmerie a diffusé en effet hier un appel à témoins pour retrouver l'agresseur du Tahara qui avait violenté une joggeuse âgée d'à peine 16 ans. Souvenez-vous, l'adolescente avait été agressée la semaine dernière, puis étranglée avant de réussir à prendre la fuite. Son agresseur avait alors pris la poudre d'escampette au guidon de son vélo, puis ensuite avait percuté une voiture et abandonné son vélo quelques minutes plus tard. L'agresseur est un homme qui semble avoir entre 20 et 30 ans. Il est de type polynésien, mesure environ 1m75. Il est de corpulence normale, la peau bronzée, les cheveux noirs jusqu'aux épaules. Il était vêtu au moment des faits d'un bermuda sombre, d'un t-shirt marron ou noir et d'une casquette noire. L'individu pourrait également s'être blessé à la tête lors de la collision avec la voiture. Toute personne ayant des informations est invitée à contacter le centre opérationnel de la gendarmerie en composant le 17.
Allez, un petit peu plus léger maintenant et surtout plus gourmand, le meilleur sommelier du monde est en ce moment à Tahiti.
Arrivé meilleur sommelier du monde en 1992 et récemment décoré de la médaille du meilleur ouvrier de France, Philippe Forbrac est arrivé au Fénois jeudi. Invité par la société Millésime, il animera 3 dîners dégustation gastronomiques pour partager sa passion du vin et pour faire découvrir aux Polynésiens l'accord parfait avec nos produits locaux. C'est d'ailleurs lui qui a guidé les cuisiniers sur les saveurs qu'ils voulaient retrouver par rapport au nectar qu'il a choisi.
Dans le cadre de cet événement particulier ici à Tahiti, j'ai choisi avec les équipes de Millésime donc un certain nombre de vins qu'on a voulu faire découvrir et ils m'ont demandé ensuite de les orienter sur les types de saveurs pour le repas. Donc ils ont adapté un petit peu la cuisine locale avec les produits locaux bien sûr, mais aux indications gastronomiques que j'ai pu leur suggérer en fonction des vins. On est parti sur des bases qui doivent fonctionner et qu'on va pouvoir adapter au fur et à mesure des événements.
Le programme des 3 dîners dégustations gastronomiques de Philippe Forbrac est à retrouver sur le site internet de Millésime, www.millésime.pf.
Et enfin, on referme ce journal sur un mot de surf.
Et le Tahitien Michel Bourrez qui a plutôt mal débuté l'avant-dernière étape des championnats du monde de surf qui se déroule en ce moment au Portugal. Lors du premier round, le Portugais Vasco Ribeiro, qui se classe 38e mondial, a renvoyé Michel Bourrez au barrage. D'ailleurs, tout comme le redoutable Australien Owen Wright qui venait compléter le trio. Michel Bourrez se retrouve donc opposé au Brésilien Miguel Pupo lors du round 2 de repêchage. 7h passées de 40 minutes, vous écoutez Radio 1, voilà pour l'essentiel de l'actualité.